Bienvenue à toutes et tous, c'est Sylvia Micon et je vous souhaite une très très belle année 2021 avec toujours la même promesse pour impact positif. Partager le parcours de personnes inspirantes, entrepreneurs, simples citoyens, artistes, scientifiques, ils ou elles ont un impact sur la société, l'environnement, ils agissent, ils font et ils ont des solutions, les voici.
Il y a aussi une méconnaissance, en fait, on dit souvent, vraiment le constat est fait, c'est juste que soit les gens n'ont pas envie de bouger leurs privilèges et donc dans ce cas c'est une volonté, soit les gens n'ont rien à faire. Mais je crois qu'il y a aussi réellement un manque de connaissances sur le sujet et d'informations, et je suis certaine de ça. On est dans nos cercles de pensée, les réseaux sociaux font qu'on n'en sort pas, on a l'impression tout le temps que tout le monde est au courant, et en fait on se rend compte que c'est pas du tout le cas, on en parle encore beaucoup trop peu, il y a beaucoup trop peu de gens au courant, et on le voit avec la Convention citoyenne pour le climat. Quand on prend des gens au hasard de la société française, qu'on les forme sur un sujet, en quelques semaines, ils sont d'un coup, ils prennent des décisions qui paraissent hyper radicales parce qu'en fait, ils se rendent compte de l'urgence. Donc je crois qu'il y a un vrai manque d'informations.
Camille Etienne est la première invitée de l'année. Elle n'a que 22 ans, activiste pour le climat. Elle a mis ses études sur pause pour se consacrer à ses engagements, apprendre toujours plus, faire du lobbying auprès des décideurs et des médias. Qu'est-ce qui la pousse à faire tout cela? Comment le fait-elle? Comment parvient-elle à garder le sourire et la tête froide face aux attaques? Elle reçoit régulièrement des insultes et des menaces, mais elle arrive à s'en détourner parce qu'elle n'a qu'un seul objectif, poursuivre à tout prix son action. Impact Positif est dans sa troisième saison. Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent depuis le début et aux autres qui nous rejoignent. Pour me soutenir et continuer à découvrir ces personnalités et leurs projets à impact, abonnez-vous sur iTunes ou sur votre plateforme préférée. Commentez le podcast, partagez-le et notez-le, cela m'aide à faire grandir ce média. Impact Positif, saison 3, épisode 6, un diamant. Camille Etienne, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de participer à Impact Positif. Vous êtes étudiante, militante, activiste pour le climat, pour la justice sociale. Vous êtes porte-parole du mouvement On est prêt, un mouvement qui réunit notamment des influenceurs, des youtubeurs, afin d'éveiller les consciences sur les réseaux sociaux. On est aussi ravis de donner la parole à une étudiante, à la jeunesse. Vous avez 22 ans. On avait notamment invité dans la première saison du podcast des porteurs du manifeste pour un réveil écologique. C'était une lettre ouverte aux futurs employeurs pour qu'ils prennent conscience des enjeux. J'imagine que vous l'avez aussi porté dans votre propre école, Sciences Po Paris. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui, ce manifeste?
C'est vrai que je l'ai signé d'abord, et puis il a été à la base mis en place par des étudiants de grande école, et puis petit à petit, c'est parti en dehors des étudiants de grande école. Et moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup aussi auprès des décideurs que je peux rencontrer en disant, regardez, c'est très simple, regardez d'où viennent concrètement vos derniers CIO, quelles études ils ont fait, et si on vous dit que dans cette école, il y a 60-70% des élèves qui ont signé ce manifeste et qui ne viendront pas travailler chez vous si vous ne changez pas vos pratiques, ils commencent un peu à flipper et à se dire on va avoir une pression sur l'emploi. Donc c'est quelque chose de très utile. Aujourd'hui, je sais qu'ils continuent à faire de la vulgarisation aussi auprès des jeunes, à faire du lobbying, non seulement pour faire pression sur ces grandes entreprises avec ce chantage à l'emploi, entre guillemets, mais aussi ils travaillent beaucoup sur des questions de lobbying auprès des institutions, de l'éducation, pour dire il faut que dès l'école, en fait, concrètement, on puisse être formé sur ces enjeux-là. Donc ils font beaucoup de travail sur la réformation des programmes scolaires.
Vous participez à beaucoup de conférences, vous êtes très active aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous répartissez entre vos études et vos engagements? Alors je sais que vous avez fait une pause d'ailleurs, vous avez décidé de vous arrêter un petit peu, un peu comme Greta Thunberg d'ailleurs, pour vous consacrer pleinement à vos engagements.
Mais entre mon master 1 et mon master 2, c'est assez courant de faire des pauses pour faire des stages, et en même temps, là c'était Sciences Po m'a fait confiance, donc j'ai eu la chance là-dessus qui m'ait laissé faire une année complètement blanche où je peux me consacrer à mon activisme, parce que ça prend beaucoup de temps, mine de rien, et les années comptent. En fait, on est dans la décennie où là, on voit tous les experts du GIEC, Jean Jouzel me le disait il n'y a pas longtemps, en disant vraiment on est dans les décennies où on peut faire basculer ou pas la chose. Donc on prend en gros toutes les décennies 0,2 degrés. On a déjà pris 1 degré depuis l'ère pré-industrielle pour limiter à 1,5 degré. À ce rythme-là, on va les atteindre entre 2030 et 2050. Donc c'est vraiment maintenant que toutes les décisions sont prises, qu'il faut qu'on pousse les États à être plus ambitieux, les décideurs à prendre des décisions à la hauteur. Donc je me suis dit, ok, c'est le moment d'oser le faire. Et c'est une année un peu folle, mais j'ai même moins de temps que quand j'étais étudiante.
Ah bon? Ah bah dis donc. Et vous vous donnez des objectifs? Qu'est-ce qui va se passer durant cette année?
Là, déjà bien entamé cette année, mais j'ai en gros à peu près un tiers de mon temps qui est de vraiment avoir accès à la connaissance, donc de passer du temps. Ce matin, j'étais avec Gilles Boeuf, qui travaille sur la biologie, la biodiversité, sur le climat. Là, il y avait un bureau aux États-Unis qui me parlait des quick wins, des gaz, en gros, qui sont des gaz à effet de serre, qui sont aussi, voire plus réchauffants que les CO2, mais qui ont une durée de vie plus courte et dont on parle moins. Donc en fait, voilà, c'est tout ça. C'est donc une partie, en gros, d'informations des ONG. J'étais avec Marie Toussaint qui me parle de l'écocide. Donc en fait, c'est ça, être au courant de ce qui se passe politiquement, des grandes lois, des grands combats des ONG, des scientifiques qui nous vulgarisent les rapports. Ça, c'est à peu près un tiers de mon temps. Après, il y a un tiers de lobbying, entre, je dirais, entre guillemets, grand public, donc dans les médias, dans les conférences. Je donne des cours en lycée SECPA, sur les réseaux sociaux, je fais des vidéos de vulgarisation, tout ça. Et après, un tiers, en gros, un peu de lobbying, entre guillemets, auprès des décideurs.
Ouais.
Donc ça, c'est plus au niveau européen. Vous disiez
en off que vous étiez avec le ministre des Transports.
Ça, voilà, typiquement, ça se fait souvent en dehors des caméras. Là, hier, j'étais avec le ministre des Transports, M. Djebari, pendant une heure. Des fois, ça peut être des grands patrons. J'ai rencontré le président de Monsanto Bayer, Europe. Ça peut être des grands CEO. Enfin, voilà. Et là, en fait, en dehors des caméras, on porte toujours, je suis toujours ce haut-parleur, entre guillemets, juste cette courroie de transmission des réalités scientifiques, des scientifiques et des ONG. Et que je porte auprès de ces décideurs-là. Donc ça, c'est aussi un travail que je fais avec, au niveau européen, avec Adélaïde Charlier, beaucoup, Anouna Dwever, Greta, Louisa, tout ça. Et donc là, voilà, on va les rencontrer. On prend cette chance incroyable qui nous laisse une petite passe dans leur emploi du temps pour occuper cet espace avec du climat, de la biodiversité, des enjeux. Et on propose aussi derrière des actions, parfois, aux citoyens, en disant, là, c'est le Covid en ce moment, donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut envoyer des mails, on a fait des campagnes de mails aux députés, des lettres à l'ambassade. On propose aussi des moyens d'action, on essaie de plus en plus innovants, pour avoir un impact et créer ce lobbying, en fait. Concrètement, c'est du lobbying citoyen, ni plus ni moins.
Vous êtes parfois impressionné quand vous rencontrez des personnalités comme ça, parce que l'air de rien, il y a quelques mois, vous étiez sur les bancs de l'école. Est-ce que vous êtes un peu ému aussi ?
Très honnête, bizarrement, pas trop. Ça me fait pas. Ça me l'a fait. La première fois que j'ai rencontré Greta, parce que des gens que j'admire beaucoup aussi, ou Cyril Dion, la première fois que je l'ai rencontré, parce que c'est des gens qui ont participé à. Pas une prise de conscience, parce que j'avais déjà conscience, mais dont j'admire la droiture dans leur combat. C'est deux personnes qui sont vraiment extrêmement droites et extrêmement humaines et qui en rien pour rien ne vont faire des concessions. Et je trouve ça beau, en fait. Ils sont très purs dans leur activisme. Donc, plus dans ces moments-là, mais non. J'ai conscience de la chance que j'ai quand il y a des ministres qui passent une heure avec moi. Je me dis bien que quand on dit on a un emploi du temps de ministre, c'est bien qu'on n'a pas le temps. Donc, je sais que c'est rare, mais que du coup, j'ai une responsabilité qui vient avec ça. Donc, ça me fait plutôt stresser dans le sens. Je ne suis pas quelqu'un qui stresse beaucoup, mais je me dis quand même qu'il faut que tout ce que je dis soit extrêmement appuyé, soit fact-checké, que je porte les bonnes mesures, que je ne sois pas là à débarquer et à juste rigoler pendant une heure parce que c'est rigolo de rencontrer un ministre. Donc j'essaye d'être à la hauteur en fait, de ce temps qu'il m'accorde.
Aujourd'hui, quand on est jeune, quelle forme prend le combat politique pour les idées ? Est-ce que vous imaginez vous engager dans un mandat, par exemple, vous faire élire ? Quels sont les leviers d'action que vous avez identifiés ?
Je dis souvent qu'il y a autant de manières d'être activiste que de personnes. Et pour moi, c'est juste un rapport d'être au monde. Donc, que ce soit pour la jeunesse ou pour tout le monde, en fait. Moi, il se trouve que j'ai identifié que peut-être mon talent, avec plein de guillemets, c'est d'utiliser ma voix. Que c'est avec ça que je suis capable de convaincre les gens, ma force de conviction à travers la parole, à travers l'art aussi un peu. Donc, du coup, je continuerai à faire ça. Après, il y a certaines personnes pour qui, c'est, je sais pas, le journalisme. Donc, très bien, en fait, pour le coup, par exemple, là, des podcasts qui vont inviter des gens qui ont des choses à dire, qui parlent de cette urgence-là. Si c'est d'être artiste, faites des choses qui parlent de ces sujets-là. D'être boulanger, enfin, bref, vous avez compris. Il n'y a pas du tout une seule manière de faire. Donc, moi, je vais regarder ce qui correspond à ce que je peux apporter au monde. Il faut qu'on pense en termes d'écosystème, en fait. Cette nature qu'on détruit, elle est en écosystème. Et en fait, chaque chose, chacun a sa place et impacte cet écosystème d'une manière ou d'une autre. On est très liés. Donc, je crois que c'est la manière dans laquelle il faut qu'on voit notre manière d'impacter le monde, donc d'être activiste aussi. Et en ce qui me concerne, j'ai déjà l'impression de faire de la politique. En fait, dans le sens, la politique, c'est quoi ? C'est la police, c'est la gestion de la cité. Mmh. C'est ça, on met sur la table des idées qui concernent le bien commun. Donc, c'est ni plus ni moins ce qu'on fait. On essaye d'influencer pour que décisions...
Vous influencez, quand on fait de la politique, on a le pouvoir.
Alors, c'est vrai, j'ai l'impression quand même d'avoir un peu de pouvoir, mais là, on est plus dans le contre-pouvoir. Donc, c'est vrai qu'on est comme ce lobbying citoyen où on pousse pour qu'on prenne des décisions d'un côté plutôt que de l'autre. Parfois, ce serait plus simple. Je me dis, mais si tu prenais concrètement... Toi, c'était toi qui votais la loi, est-ce que ce serait pas plus facile ? Donc c'est vrai que c'est des questions que je me pose, on m'a proposé déjà des choses, mais j'admire beaucoup les gens qui s'engagent très très tôt en politique. J'étais sur un plateau télé avec Christiane Taubira et il disait sur cet avou, elle s'est engagée aussi très tôt, donc faites-le. J'ai dit oui, mais le problème c'est que je pense qu'il faut avoir des épaules extrêmement larges pour être capable de représenter quelque chose de plus grand que soi-même. Déjà quand on me dit à tort que je suis symbole d'une génération, je dis pas du tout, moi, je représente mes idées, j'essaie de porter celles des scientifiques, mais c'est tout. Et en fait, là, ça demande quand même de représenter. Enfin, c'est une responsabilité énorme. Donc peut-être plus tard, si je me rends compte qu'il n'y a pas d'autre choix que toute cette jeunesse ou tous ceux qui ont ces idées-là infiltrent concrètement le pouvoir. Après, je ne suis pas spécialement plus fan dans la manière dont aujourd'hui se fait la politique, c'est-à-dire la démocratie qu'on vit aujourd'hui. Bah là, avec la Convention citoyenne pour le climat, peut-être qu'on en parlera. C'était pour moi un bon exemple de ce vers quoi on devrait tendre. Mm-hmm. Mais je ne suis pas spécialement non plus fan de cette 5e République et de tout ce présidentialisme qu'on vit, quoi. Mm.
Alors justement, vos engagements, d'où viennent-ils ? Alors votre éducation, est-ce que c'est votre environnement familial ? Il y a quelques années, vous étiez engagé contre la délinquance des jeunes, je crois, et vous êtes aussi intéressé à la crise migratoire. Du coup, ça vous vient d'où ?
Mais délinquance juvénile, c'était plus justement la manière dont on la traitait qui me révoltait que le fait qu'il y ait des jeunes qui des fois dévient, mais bref, c'est un autre sujet. Je pense que j'ai eu un privilège. Je me suis rendu compte assez récemment que c'était un privilège de grandir dans un endroit extrêmement préservé, au bord du parc national de la Vanoise. Mm-hmm. On est juste aux portes, quoi. On fait 10 mètres, on y est, dans un petit village perdu, il n'y a pas d'autre mot, où on ne peut même pas y aller en voiture l'hiver, où on est entouré de neige, de montagnes et de forêts, concrètement. Il y a juste un agriculteur, des voisins et nous, quoi, c'est tout, on est trois dans le village. Mais, et ça, en fait, je me suis rendu compte que vivre au rythme des saisons comme ça, avoir face à moi l'immensité de la montagne constamment, chaque jour que je me réveillais, avoir la nature comme un... Bah, c'était mon principal terrain de jeu, c'était aussi mon frigo, c'était tout, quoi. Et je me suis rendu compte que ça, c'était un énorme privilège d'avoir eu même des parents qui étaient pas activistes, mais qui étaient très concernés et qui faisaient qu'ils nous ont vachement protégés aussi de... Ils nous ont vraiment appris à penser par nous-mêmes. Et on n'avait pas spécialement la télé, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas tout ça. Et donc, je me suis beaucoup construite à travers les lectures et appris à réfléchir moi-même. Et en arrivant à Sciences Po Paris, là, je me suis rendu compte que malgré qu'il y avait des gens extrêmement brillants, le fait d'avoir grandi loin de cette nature-là aussi, bah, ça nous privait de tout un tas d'enseignements. Et que donc, puisque j'avais pu avoir accès à ça, que c'était un privilège, il fallait que j'utilise, en fait, pour influer ces gens qui allaient avoir plus tard des responsabilités et des postes de pouvoir.
Mmh. Et donc, justement, vous êtes au plus près aussi de la réalité du changement climatique, puisque vous êtes effectivement en pleine montagne et vous pouvez les voir, ces effets-là, de vos propres yeux aussi.
Tout à fait. Donc, on parle beaucoup des glaciers. On le voit même... Enfin, moi, je vois très bien ce qu'on appelle les neiges éternelles. C'est des neiges où, normalement, il y a toujours de la neige à cet endroit-là. On voit très bien que, de moins en moins, elles sont présentes. On voit très bien que ce qu'on appelle les marges d'approche pour aller... mon père est guide haute montagne. Mon frère fait de l'alpinisme aussi beaucoup. Donc, en fait, pour aller faire un glacier, faire un sommet, on a une marge d'approche avant de mettre les crampons. Et ben, on voit que c'est de plus en plus long. On voit sur ce qu'on appelle les topos. Avant, ils disaient, il y a une heure de marge d'approche. Là, il faut marcher 2-3 heures avant d'arriver au glacier. Enfin, c'est atterrant. Les glaciers qui s'effondrent, même les bouts de montagne, en fait, tout le sol gelé qui maintient à la base à des températures assez froides et qui fait que les rochers se tiennent, c'est en train de fondre. Et on a des pans de montagne, là, il y a quelques mois, il y a un pan de montagne qui est complètement tombé, quoi, qui s'est écroulé. Donc on voit les impacts du réchauffement, particulièrement en montagne. Ouais.
Tout à l'heure, vous disiez, moi, je ne suis pas du tout, je suis un symbole de rien du tout. Est-ce que vous vous sentez quand même un petit peu différente? Ou alors simplement, vous dites, moi, je peux ramasser les idées de beaucoup de ces jeunes et je peux les porter.
Non, je trouve ça très dangereux toujours de prétendre représenter quelque chose de plus grand que soi-même. J'essaye d'impacter le monde de quelque chose d'un peu plus grand que moi-même, de laisser une trace un peu plus grande que moi-même, ça c'est certain. Mais je pense que ce serait un peu prétentieux de dire que... Je sais que beaucoup de jeunes, en tout cas, partagent, si c'est pas toutes mes idées, mais que c'est symptomatique, entre guillemets, on peut faire une métaphore d'actualité, de tout un système de pensée, de toute une génération qui aussi se retrouve plus dans ses valeurs de progrès absolu, de capitalisme à tout bout de champ, qui a envie d'autre chose aussi et qui se rend compte, qui a conscience un peu, qui a les yeux ouverts sur le monde et qui se rend compte un peu aussi de cette urgence climatique.
L'urgence que vous partagiez avec vos camarades à Sciences Po Paris, par exemple.
Oui. Bah, à Sciences Po Paris, quand même beaucoup sont conscients de l'urgence. Après, on n'est pas tous d'accord sur la manière d'agir par ailleurs. Et il y a aussi une méconnaissance, en fait. On me dit souvent, vraiment, le constat est fait. C'est juste que soit les gens n'ont pas envie de bouger leurs privilèges, et donc, dans ce cas, c'est une volonté, soit les gens n'ont rien à faire. Mais je crois qu'il y a aussi réellement un manque de connaissances sur le sujet et d'informations. Et je suis certaine de ça. C'est-à-dire que même à Sciences Po, ça m'est arrivé plein de fois de demander à des camarades qu'est-ce que c'était que le GIEC, et personne n'était capable de me répondre. C'est pas du tout. Enfin, il y a des gens brillants partout. Mais c'est juste qu'on est dans nos cercles de pensée, les réseaux sociaux font que...
On n'en sort pas.
On a l'impression tout le temps que tout le monde est au courant. Et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. On en parle encore beaucoup trop peu. Il y a beaucoup trop peu de gens au courant. Et on le voit avec la Convention citoyenne pour le climat. Quand on prend des gens au hasard de la société française, qu'on les forme sur un sujet, en quelques semaines, ils sont d'un coup, ils prennent des décisions qui paraissent hyper radicales. Parce qu'en fait, ils se rendent compte de l'urgence. Donc je crois qu'il y a un vrai manque d'informations. Ouais.
Alors qu'à la base, ils n'étaient pas du tout des militants radicaux.
Il y avait même un climato-sceptique, Olivier.
On vous a beaucoup parlé de votre intervention à l'université d'été du MEDEF. On a beaucoup passé les extraits. On ne va pas le repasser encore ici. Vous aviez été invité et lorsque vous avez parlé de la proposition de la réduction du temps de travail, on vous avait ri au nez. C'est une proposition que vous soutenez encore aujourd'hui, que vous portez ?
Mais en fait, pour moi, c'est du bon sens. C'est-à-dire que d'un point de vue individuel, d'un point de vue collectif, d'un point de vue individuel, il y a, j'apprends à personne, qu'il y a tout ce qu'on appelle des multi-jobs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui créent des problèmes pour après trouver des solutions pour les résoudre, qui font des PowerPoint que personne ne lit. Enfin, et en fait, ça, c'est un truc. Moi, j'ai eu la chance de vivre un an en Finlande dans mes études. Un an où j'étais la tête dans les bouquins, dans l'agroforesterie, dans les sciences dures. C'était passionnant. Et là-bas, en fait, il n'y a pas du tout ce truc d'être workaholic. Enfin, c'est pas du tout quelque chose qu'on valorise de travailler jusqu'à 3h du matin. C'est-à-dire que quand je suis rentrée, que j'ai fait un stage et que je partais à 17h30, parce que c'était mon contrat, que j'avais fini ce que j'avais à faire, on me regardait mal. Et même si les horaires, c'est 17h30, c'est valorisé de rester tard au travail, de continuer. Alors que là-bas, en Finlande, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si tu pars tôt, pour profiter de ta famille, tout ça, ça veut dire que tu as été performant pendant tes heures de travail. Et c'est très sain. Donc ça, je crois qu'il faut qu'on change complètement cet imaginaire-là, parce qu'on fait des gens pas productifs, malheureux, et qui ouais, productif, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais c'est ça l'idée, quoi, qui sont pas effectifs dans leur travail et qui sont pas heureux au boulot. Et ça, c'est, y a rien, enfin, on passe tellement d'heures là-dedans que je trouve ça extrêmement triste comme vie, de juste avoir 2 semaines par an, on peut partir en vacances à Bali pour s'évader. Enfin, je trouve ça hyper triste d'avoir à s'évader notre quotidien. Et d'un point de vue plus collectif, c'est une question aussi de toujours être dans une logique de croître plus. En fait, se rappeler des réalités très simples, c'est-à-dire que on a des limites planétaires. Il se trouve que notre écosystème et ce sur quoi on qui nous permet de vivre est limité. Il y a une quantité d'eau potable qui est limitée, il y a une quantité de forêt qui met du temps à se régénérer, etc. Les ressources sont limitées et donc on ne peut pas croître et les utiliser de manière illimitée. C'est juste, on ne peut pas mettre un carré dans un rond. Un enfant de 3 ans est capable de comprendre ça. Donc on ne peut pas continuer à travailler autant et à produire autant, tout en gaspillant autant aussi d'ailleurs. Il y a quand même un tiers de la nourriture qu'on produit que jetée, donc il y a un vrai problème de comment on gère ces ressources-là. Donc oui, je pense que, et individuellement et collectivement, on est obligé à un moment donné de faire moins et de produire moins, de consommer moins.
Et la réduction du temps de travail, elle n'a pas été retenue en revanche par la Convention citoyenne, si je ne m'abuse.
Je crois pas. Honnêtement, j'ai pas en tête. Je connais pas mal le truc de la convention, mais pas ces mesures-là. Je crois pas que ça ait été quelque chose de...
Oui, je pense que c'est une mesure effectivement qui n'avait pas retenu. Justement, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience de la convention citoyenne, le contenu du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il a été révélé début janvier. Il contient 65 articles et selon certains observateurs, eh bien, c'est un recul par rapport aux 150 propositions initiales de la convention, notamment en matière de transport, sur les passoires thermiques, sur la régulation de la publicité. Toutes les mesures structurantes ont été détricotées, indique pour sa part Cyril Dion, que vous avez cité tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Est-ce qu'il y a des déceptions ? Mais est-ce qu'on peut se dire aussi que finalement, il y a des propositions qui ont été retenues ?
Alors oui, pour moi c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est déjà qu'il n'y aurait jamais eu sûrement de loi climat s'il n'y avait pas eu cette convention. C'est aussi une réponse à l'affaire du siècle où là on a quand même le procès. Donc c'est quand même 2,3 millions de personnes qui ont signé, qui ont porté plainte contre l'État pour une action climatique. Donc c'est, la convention découle aussi de ça un petit peu. Donc on se rend compte que voilà, il n'y aurait pas eu de loi climat, il n'y aurait pas eu peut-être le premier article de la Constitution qui serait changé. Donc il y a des choses positive. Pour moi, ce que je disais tout à l'heure qui est positif, c'est qu'on se rend compte que quand on prend des gens au hasard et qu'on les forme sur le sujet, ils sont capables d'accepter des mesures qui peuvent paraître extrêmement contraignantes et extrêmement radicales. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron s'était engagé à faire passer sans filtre ces mesures-là. Et là où on se rend compte, c'est que c'est pas le cas. Et qu'en fait, quand on
creuse expliquer
peu...
sur le sans filtre, ce qu'il voulait dire par là, finalement, c'était pas tout à fait sans filtre, finalement.
Bah, c'était pas sans filtre du tout. Et je trouve ça très dangereux, même démocratiquement, quand on dit, on donne une mission à des citoyens en disant, je vous demande de réduire de 40% au moins les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2030, de trouver des mesures concrètes. Et que là, d'un coup, le gouvernement dit, waouh, c'est trop, ça va trop loin, on peut pas le faire. Alors que par ailleurs, la même semaine, on a Emmanuel Macron qui signe quand même un accord européen d'une réduction de 55% d'ici 2030. Donc comment est-ce qu'on va tenir ça ? En fait, je me dis juste, c'est pas possible physiquement, quoi, et mathématiquement.
Il faut continuer avec ces comités citoyens, d'ailleurs. On sait qu'ils ont été beaucoup critiqués hein, ici dans le pays. Un autre a été tiré au sort, d'ailleurs, pour accompagner la campagne de vaccination. Cette fois, c'est important qu'il y ait des citoyens qui soient tirés au sort et qui continuent d'accompagner les décisions qui sont prises.
Bah complètement, je crois qu'à Grenoble aussi, ils en ont fait, ça s'est fait en Occitanie, ça s'est fait dans pas mal d'autres endroits. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça permet de se ressaisir en fait de la politique. C'est pas la solution parfaite partout, on peut pas faire des conventions pour tout, ça prend du temps, c'est coûteux, etc. Mais c'est extrêmement intéressant aussi parce que ça permet de rapprocher le citoyen de ce politique-là. Et moi, je crois qu'un gros problème, c'est qu'on a justement perdu ce sens citoyen au fond de nous, ce truc de dire, bah, en fait, ça nous concerne, la politique, l'État, c'est nous. C'est juste qu'on a décidé, quand on prend un peu de recul, on s'est dit, c'est qu'on va devoir habiter ensemble, soit on prend l'option de dire, bah, c'est parce qu'on a envie, qu'on a un animal social, soit c'est parce que c'est par contrainte pour pas s'entretuer, peu importe, mais il faut qu'on habite ensemble. Donc la politique, c'est de dire, comment est-ce qu'on le fait? On décide ensemble quelle ligne rouge, en tant que société, on décide de pas franchir. Comment est-ce qu'on habite ce monde-là? Donc c'est quelque chose de beau à la base, de quelque chose de noble. Et je crois que c'est important qu'on s'en ressaisisse et qu'on n'ait pas l'impression de juste voter une fois tous les 5 ans et qu'après, basta cosy, ils se débrouillent sans nous. Donc je trouve que ça, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Ouais.
Alors vous avez tourné Réveillons-nous pendant le confinement. La vidéo, elle a été vue par plus de 15 millions de personnes, traduite en anglais, en espagnol, près de 10 minutes. Ou dans ce court-métrage, vous appelez un sursaut d'action pour ne pas revenir au monde d'avant. On écoute un extrait.
Il va nous falloir être une génération intranquille, consciente et indignée. Qu'on soit plus que quelques-uns à être écolo. Drôle de case dans laquelle on a rangé ceux qui amassaient la vie pour se battre pour elle. Sauver la planète, protéger l'environnement. Comme si on ne faisait pas partie de ce tout. Nous sommes des êtres vivants, au même titre que les autres que nous exterminons. Nous sommes la nature. Si elle disparaît, nous disparaissons avec elle. Si le jour d'après consiste simplement à refermer la parenthèse, à reprendre le cycle infernal qui a rendu possible ce virus, alors nous aurons perdu.
Pour toucher du monde, pour toucher tous ces millions de personnes, il faut savoir communiquer. C'est un de vos points forts aussi. Je crois que vous faites du théâtre. Ça fait aussi partie de vos compétences. C'est important de savoir faire passer des messages.
C'est vrai que je me rends compte que oui, enfin, on voit, quand j'ai commencé à travailler avec Solal Moisan, qui est pareil, mon meilleur ami, qui est réalisateur, moi j'étais là à faire mes discours un peu, à essayer tout ça, et quand lui il a mis en lumière parfois certaines de nos vidéos, quand il a apporté son regard artistique, d'un coup on voyait que l'impact était beaucoup plus grand. Parce que même mathématiquement, quand on est en train de se coller comme ça sur Instagram, qu'on a des vidéos incroyables d'influenceurs, de trucs super chouettes, et que d'un coup on voit une vidéo un peu nulle d'activiste qui est fait à l'iPhone, qui marche pas, bon bah on va pas s'arrêter. Alors que quand on a quelque chose de beau avec une musique qui va toucher un peu nos émotions, bah d'un coup on va peut-être plus avoir envie de regarder jusqu'au bout et d'écouter le message. Donc je me rends compte que la forme peut aussi servir le fond. Et puis même, il faut être capable de... La publicité, c'est extrêmement puissant. On se rend pas compte à quel point ça gouverne nos manières de consommer, de penser, de voir le monde. Donc il faut être capable aussi de se battre avec les mêmes armes. Je pense que c'est hyper important d'utiliser en fait tous ces codes-là. Moi j'avais un cours à Sciences Po de marketing avec un des directeurs marketing de L'Oréal, je crois. Et j'étais passionnée par son sujet. Donc il nous montrait des pubs de parfums, vraiment tout ce que je détestais, de consommation absolue, aucun sens. Des pubs à plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais c'était passionnant de voir, en fait, de comprendre les logiques derrière et de dire, OK, c'est comme ça que vous arrivez à nous faire passer des idées aussi fortes qui nous paraissent inconscientes, en fait. Et comment est-ce que nous, on va utiliser ça aussi pour le transformer et faire passer d'autres idées. Donc je trouve qu'il faut qu'on soit capable d'être malin aussi et de jouer un peu avec ces règles du jeu.
Alors justement, beaucoup d'artistes, mais aussi des activistes, insistent sur la nécessité de faire émerger un nouveau récit qui permettrait d'incarner cette transition qu'on est en train de vivre. Ça pourrait être quoi ce nouveau récit? Comment on peut le construire justement?
Ça, c'est une vraie question et très difficile et à la fois hyper belle. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de montrer ce qu'il faudrait fuir et quel point ça va pas. Et je trouve qu'il faut qu'on soit capable aussi de se projeter. Et c'est ce qui manque en fait fondamentalement. C'est faire un mouvement vers la vie, montrer ce vers quoi on peut aller et pas juste dire, bah voilà, c'est l'horreur, il faut qu'on fuit ces conséquences dramatiques. Il faut qu'on soit capable d'inventer un truc. Et donc là-dessus, c'est pour ça que nous, on appelle aux artistes. Et avec Cyril Dion, j'étais allée et on est prêt au Festival de Cannes. On avait fait une tribune, on avait monté les marches avec d'autres activistes, tout ça, en disant, bah, on a besoin de vous, les raconteurs d'histoires, pour inventer ce nouveau monde. Vous êtes capables, on voit bien même avec les réseaux sociaux, en fait, à quel point on existe dans le regard de l'autre aussi, de ce que ça va créer de jalousie, d'admiration, à quel point même un film, c'est fou, je me suis dit, un film, comment on peut tous tomber amoureux en 2 heures de film de Ryan Gosling ou pleurer à chaudes larmes, alors qu'on sait que c'est faux, quoi. On sait que c'est un scénariste qui a fait ça à Hollywood. Et en fait, c'est un pouvoir énorme sur nous. Et donc, je me dis que à travers l'art, à travers ces récits-là, on peut être capable de faire vivre des émotions incroyables, de créer des élans incroyables. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit capable de le faire. Mais après, à quoi concrètement il ressemble ? Là, moi, j'ai ma vision d'un truc un peu où on a plus de sens, plus d'harmonie, plus d'humilité. Je dirais que c'est les trois mots.
En tout cas, vous avez déjà commencé, vous, avec On est prêt, hein, parce que je crois que vous avez travaillé avec un partenariat avec une maison d'édition. Et donc là, il y a des bouquins qui sont sortis et qui essayent de raconter justement cette transition qu'on est en train de vivre. Ça, c'est un nouveau récit, par exemple.
Tout à fait. Typiquement, c'est ça. En fait, c'était avec les éditions Glénat, c'était sur la jeunesse, c'était des romans jeunesse, donc c'était plus pour les jeunes, mais être capable de se projeter aussi dans un monde où, on consomme que du local, dans un monde où on prend pas l'avion et on voyage en kayak ou en vélo. Enfin, et en fait, que ça devienne quelque chose où, dans notre imaginaire, ça puisse être quelque chose de possible. Et c'est vraiment l'enjeu. Et surtout, dès le plus jeune âge, c'est important.
D'ailleurs, vous avez lancé avec votre meilleure amie, vous le disiez, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, c'est quoi, c'est une chaîne YouTube?
C'est un duo artistique où on se produit sur scène. Bon, là, c'est un peu compliqué en ce moment, mais on a une version scénique et puis on fait des fictions, là. C'est assez incroyable. J'adore faire ça. On appelait ça des fictions qui impactent le réel. Et en fait, ouais, on a pas mal de courts-métrages qui arrivent où on mêle un peu la danse, des fois la musique. Moi, j'écris, j'interprète un peu aussi, il y a de la fiction.
Toujours avec cette thématique du changement climatique.
Toujours avec cette thématique du changement climatique, mais sur différents aspects, pour vous le dire, je n'ai pas encore dit, mais le prochain, ce sera sur la génération. Donc, c'est une lettre écrite, en gros, aux générations d'avant. Donc, c'est toujours pour faire prendre conscience de l'urgence, mais de différentes manières. Et on va faire quelque chose sur un glacier aussi. On a envie d'amener un orchestre sur un glacier pour montrer que le réchauffement climatique, il est là déjà chez nous et qu'il faut agir, quoi.
C'est une façon aussi de toucher les jeunes qui ne s'affrontent plus sur les canaux traditionnels, qui ne regardent pas le 20h, qui n'écoutent plus la radio, qui ne lisent plus la presse ou encore qui ne regardent pas les chaînes d'infos. Comment on fait pour les toucher, ces jeunes-là ?
C'est là où les réseaux sociaux, ce qui sont à la fois complètement terrifiants autant que fascinants parce qu'ils ont un pouvoir très très fort, jouent un rôle. Et moi, je fais de la politique sur Instagram. Enfin, je veux dire vraiment dans le sens où, je suis suivie par un certain nombre de décideurs aussi, ou sur Twitter plus. Mais en tout cas, en fait, c'est aussi là où on va faire de la vulgarisation. Donc, je fais des vidéos de vulgarisation scientifique. On informe, on mobilise et en quelques... là, on a fait un truc sur l'Arctique. Il y avait 5% d'Arctique encore sauvage. Et Trump voulait vendre ça à l'exploration pétrolière. Donc, on a eu des ONG de l'Alaska qui nous ont contactés. On s'est dit, comment est-ce qu'on va faire ça ? On a dit, OK, il faut faire quelque chose de très visuel. Donc, on est devant l'ambassade des États-Unis manifester avec une autre amie du Sue Clément, Marie. Et on avait mis du faux pétrole qu'on avait fait avec de la terre, du charbon. C'est assez rigolo. Et en fait, ça, on a joué avec les codes des réseaux sociaux. Mais par ailleurs, on a demandé aux gens d'envoyer plein de lettres à l'ambassade. Des médias s'en sont saisis. On en a parlé un petit peu en France, un peu en Europe, que c'était pas le cas avant. Et ça a permis de mettre la lumière sur ces activistes qui, eux, se battent depuis depuis des années, en tout cas, dans cette partie de l'Arctique. Et là où ça a marché, c'est que quand je parlais tout à l'heure du regard, c'est que Trump a ouvert quand même, il n'y a eu rien à faire évidemment, mais il n'y a eu aucun acheteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de compagnie pétrolière sérieuse qui s'est proposée parce qu'ils ont eu peur de dire mais ça va complètement entacher notre image. Donc en fait, on a un pouvoir énorme et les réseaux sociaux permettent ça, de changer le regard et de montrer qu'ils ne peuvent pas faire des choses en douce mais que we're watching you, quoi.
Alors vous insistez beaucoup sur la nécessité que les médias relaient justement vos solutions. Alors vous avez de la chance, parfois ils le font. Parlent du changement climatique, ça va mieux tout de même. Le sujet, il est quand même beaucoup plus à la une. Il y a plus de titres aussi dans la presse qui se développe. Les 20 heures traitent de plus en plus de tous ces sujets qui sont très larges. Mieux manger, mieux consommer, mieux vivre finalement. Donc c'est plus positif pour vous quand même ce qui se passe dans les médias ?
Bien sûr, non. Il faut être capable de souvent être contre et montrer des choses qui ne vont pas, mais il faut aussi être capable des fois de reconnaître quand il y a des avancées. Et là, c'en est une. Reporters d'Espoir avait sorti une enquête il n'y a pas très très longtemps, quelques années, en disant qu'il y avait juste 1% dans tout le média, qu'il y avait seulement 1% des sujets qui traitaient l'urgence. Je pense que s'il la refaisait aujourd'hui, ce serait un peu plus. Donc c'est en effet très important, très bien. Pas qu'il m'invite que moi, mais qu'il invite aussi des experts, tout ça, et c'est le cas, donc c'est chouette. Mais il faut toujours plus, en fait. On traite ça un peu comme un sujet en silo, comme si c'était l'environnement, puis après il y a l'économie, puis après il y a la culture. Non, c'est ce qui concerne tout, en fait. C'est notre manière d'être au monde, donc pour moi, ça devrait être... Toujours, je pousserais pour que ce soit encore plus présent. Mais en effet, ça bouge quand même. Ça me donne pas mal d'espoir.
Dans 10 ans, vous voyez où ? Sur scène, peut-être ?
J'aimerais bien. Si jamais tout va mieux, j'aimerais bien être sur scène, faire du théâtre, du cinéma. Et parce que j'adore jouer, j'adore faire de l'art et pouvoir laisser aller un peu ma folie et mon imagination à des histoires. Peut-être raconter aussi des histoires, écrire un peu des livres. Je commence à écrire un livre, là. Mais très concrètement, donc ça, c'est si je pense juste à moi, mes petits rêves personnels. Dans les faits, j'ai cet impératif. En fait, c'est quelque chose que je vis comme un. C'est pas du tout un choix que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai conscience de mes privilèges et donc de la responsabilité qui vient avec. Et je ne peux pas faire. Ça me rend malade si je n'agis pas et si j'essaie pas de tout faire pour influencer là où on me laisse la parole, là où j'arrive à la prendre des fois, que ce soit dans les médias, que ce soit auprès des décideurs, pour porter cette urgence. Donc en fait, je pense que malheureusement ou heureusement, on verra, mais enfin plutôt malheureusement pour le coup. Ce ne sera pas résolu d'ici 10 ans et que je serai donc encore en train, d'une manière ou d'une autre, d'aller faire du lobbying à ma manière. Peut-être que ce sera en politique, mais voilà, je prends le temps de le faire bien.
Ouais, déjà cette année, on va voir. Camille Etienne, on se quitte toujours dans ce podcast par une interview dans l'interview. Et pour vous, ce sera l'interview du monde d'après. C'est parti. Tout d'abord, est-ce que vous l'aimez bien, cette expression du monde d'après ?
En vrai, pas tant que ça. Je l'ai un peu reprise parce que j'ai rien trouvé de mieux, mais je la trouve pas tant que ça parce qu'en fait, c'est repositionné un peu dans un comme on se bat pour les générations futures. Pour non, il y a déjà assez de manières, de raisons de se révolter aujourd'hui. Donc pour moi, on devrait se préoccuper de comment est-ce qu'on habite le monde aujourd'hui. Point. Et il faut qu'on le fasse sortir des tribunes et des tweets ce monde d'après, qu'on le mette en place concrètement maintenant.
Les qualités essentielles pour un entrepreneur, un artiste, un activiste, ou les trois à la fois d'ailleurs, dans ce monde d'après.
De l'intranquillité, c'est un peu la version jolie de la méfiance, c'est d'être capable de toujours avoir un regard critique sur les choses. De l'intransigeance aussi. Et je dirais un peu de folie. Un peu de folie pour être capable de voir le monde. Il y a une expression en Finlande qui dit « regarder derrière l'espèce de coin noir qui fait peur au bout de la rue où on n'ose pas aller, où on préfère marcher dans l'allée pleine de lumière », bah c'est ça, oser aller voir un peu où on ne voit pas grand-chose et où personne n'ose aller mettre les yeux.
Le ou la mentor idéal pour vous accompagner dans ce monde d'après ?
Ah là là, une seule, c'est dur. J'ai envie de dire une femme quand même, peut-être Vandana Shiva, mais Cyril Dion, il le sait, j'admire beaucoup quand même ce qu'il fait en tant qu'artiste et qu'il arrive à mêler vraiment l'urgence et en même temps des nouveaux récits. Allez, choisis Cyril.
Vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes
si j'avais pas rencontré tous ces gens-là et si j'avais pas osé. Je crois que pour faire un truc personnel, si j'avais pas osé faire des pas de côté, j'ai pas osé parfois ne pas écouter parce que c'est pas toujours évident du tout. Hein. Là, on voit le côté reluisant, mais derrière, c'est des tonnes de menaces que je reçois quotidiennement aussi sur les réseaux. D'insultes, de gens qui se moquent de moi, même à Sciences Po, où j'ai eu la première fois où j'ai sorti mon compte graine de possible, il y en avait qui avaient sorti un compte graine de fossile, genre de ma promo de ma classe, quoi, pour se moquer. Donc en fait, si j'avais pas osé dire, écoutez, tant pis, je vais me détacher de ce regard des autres et faire ce qui me semble être juste parce que cette injustice me révolte et il faut que je fasse quelque chose.
Comment vous blindez d'ailleurs ? Parce que c'est vrai que même à l'université d'été du MEDEF, ça devait pas être évident qu'on vous ricane comme ça. Et pourtant, vous vous êtes pas démonté, vous avez continué votre argumentation.
C'est important. Bah, en fait, je me blinde pas du tout. Je suis extrêmement sensible. C'est parce que je suis hypersensible que je suis sensible au monde et que donc du coup je ne peux pas ne rien faire et que donc en réalité ça m'affecte beaucoup. Mais j'essaie toujours de me rappeler, de prendre un peu de recul et de me dire que moi les conséquences que je vis de cet activisme-là, c'est à la limite quelques insultes ou menaces sur Twitter. C'est pas agréable, ok. Mais contrairement à ça, il y a des gens aujourd'hui qui en meurent du réchauffement climatique. Donc proportionnellement, je crois que je peux faire ce petit effort.
Qu'est-ce que vous retenez d'ailleurs de cette année 2020, de la vôtre ? Vous avez fait beaucoup de rencontres. Si vous aviez une personne, une action à retenir, ce serait quoi ?
Une action à retenir ? Ah là, il y en a tellement. Peut-être la PAC. La PAC que j'ai fait avec... Donc en fait, on s'est appuyé sur le travail des ONG, bien sûr, de Collectif pour une autre PAC, etc., qui travaillent sur le sujet depuis hyper longtemps. Donc la politique agricole commune, en gros. Et en quelques heures, on a eu une idée avec Adélaïde Charlier, Greta Hanouna, Louisa, qui nous ont rejoints, de faire un lancement sur les réseaux sociaux. On avait écrit comme ça sur la main with Joe de Cap, enfin Vodis Cap Down. Et en fait, ça a pris tellement d'ampleur grâce aux gens. Et ça m'a vraiment donné de l'espoir parce que du coup, on a derrière la Commission européenne et donc Van der Leyen qui s'est fait interpeller par des journalistes et qui lui ont dit « mais vous faites quelque chose ». Et elle a fait une réunion d'urgence. Donc ça n'a pas marché. C'était un échec dans le sens où la loi est passée quand même. Oui. Mais on a des députés à l'intérieur qui nous ont dit « mais merci tellement parce que vous avez multiplié par deux le nombre de députés qui ont voté contre. On avait des groupes slovaques qui ont retourné leur veste. » Et vous avez permis, nous, derrière, en interne, de pousser plus loin parce qu'ils disent « mais regardez, derrière, l'opinion publique est là ». Donc je crois que Je dirais celle-là parce que ça me donne de l'espoir et j'ai envie de montrer aux gens aussi que quand ils ont l'impression de juste partager un truc, signer une pétition, tout ça, que ça sert à rien, on peut toujours faire plus, bien sûr, mais ça marche quand même. Et nous, on n'aurait pas cette aura qu'on a là et cette possibilité de rencontrer autant de gens, de décideurs là, si vous n'étiez pas là. Ça, c'est évident.
Alors justement, si vous pouviez avoir l'impact que vous souhaitez avoir en 2021, quel serait-il ?
Une chose... Ah là là, c'est dur. Bah, peut-être que... je dirais quand même cette Convention citoyenne pour le climat. Si jamais on réussissait à faire en sorte que toutes les mesures soient portées, parce que pour une fois, je trouve que ça donne pas mal d'espoir dans le sens où c'est des solutions, où on n'est pas juste en train de dire cette loi va pas, on n'est pas contre. En fait, c'est agréable aussi de se battre pour. Et donc, c'est là, c'est de se battre pour des mesures qui permettraient de mettre en place une logique de justice sociale et climatique. Et c'est ça, c'est qu'en fait, on permet aussi aux Français de vivre mieux. En fait, des chèques alimentaires, enfin, il y a plein de. Ouais. On rénove thermiquement des bâtiments qui, du coup, ben, vont permettre de réduire la facture d'électricité. Donc, peut-être que ça donnerait aussi beaucoup d'espoir, je pense, à la société, de montrer qu'on peut y arriver, il peut y avoir des mesures concrètes qui peuvent être prises et qu'on va laisser personne derrière en prenant ces mesures.
Donc que les députés finalement s'en saisissent, c'est ça que vous espérez ?
Les députés s'en saisissent, que le gouvernement... oui, bah là en tout cas maintenant, j'ai beaucoup d'espoir dans ces parlementaires, on va voir ce qu'ils font. Il y a 2022 aussi qui arrive, bien sûr. Enfin, 2022 ou qui va se préparer en 2021. Donc j'espère que la société va vraiment prendre conscience de cette urgence-là et que ça va se transformer aussi dans le vote dans les urnes.
Enfin, un conseil pour celles et ceux qui vous écoutent, qui veulent agir et qui ne savent pas comment.
Je dirais deux choses. La première, c'est renseignez-vous. Il existe des milliards de ressources, il y en a pour tout le monde. Il y en a en vidéo, il y en a des plus simples, des drôles, des moins drôles, des longs, des chiffrés, peu importe. Mais en fait, il faut avoir conscience. Ça prend pas tant de temps que ça en vrai si on fait cet effort de se renseigner. Après, on n'a pas d'autre choix que d'agir. Donc déjà, ça c'est la première étape à faire, extrêmement importante. Et après, peut-être, je dis souvent se poser cette question du sens, parce que il y a pas qu'une seule manière d'être activiste et ça peut faire peur à certains de dire mais oui, mais moi je me vois pas faire les désobéissances civiles, ce que moi j'adore faire, mais je peux comprendre que certains, ça leur parle pas, ou signer des pétitions, ou aller dans la rue, faire des manifestations. En fait, c'est pas que ça qu'être activiste. Et si votre truc, vous, je sais pas, c'est d'être à tout prix boulanger, mais osez le faire, peu importe ce qu'en pensent les gens, on s'en fiche, faites-le, et faites-le en utilisant, je sais pas, de l'agriculture autour de chez vous, en essayant de faire des choses locales qui ont du sens. Et si chacun dans cette société travaille, mettait tout son temps, toute son énergie à un monde meilleur, mais ce serait formidable. Je pense que ça irait beaucoup plus vite.
Merci beaucoup en tout cas Camille et Étienne d'être venus sur Impact Positif. Bonne année de césure, plein d'actions, on vous souhaite plein de bonnes choses et puis nous raconter ce qui s'est passé à la fin de cette année.
Avec
Merci
plaisir.
Beaucoup Camille et Étienne et très très bonne route à vous.
Merci à vous.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à David Führer pour la prise de son. Merci à Mickaël Cailly pour le mixage. Retrouvez-nous dans notre nouvelle rubrique Impact Positif sur lci.fr avec plein d'autres contenus. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @ipositif au pluriel, sur mon compte Sylvia Micone, sans oublier Instagram, impactpositif.podcast. J'attends vos commentaires, vos suggestions, vos impressions et si vous avez passé un moment inspirant, n'hésitez pas à nous noter 5 étoiles pour nous soutenir. À très vite pour un nouvel épisode d'Impact Positif.